pour réaffirmer ou découvrir quelques éléments de réponse sur l'Évangile, tant en termes de contenu qu'en termes d'effets et de conséquences sur nos vies. Vaste sujet. Et ce matin, j'impose aussi, de continuer encore sur cette thématique. Qu'est-ce que l'Évangile ? Et en tant que chrétiens évangéliques, nous insistons, à juste titre, sur l'obligation d'une foi personnelle, l'obligation d'un choix personnel, le choix de croire en Jésus comme son sauveur personnel, en ayant reconnu son état de pécheur, le pécheur au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ, mort pour satisfaire la justice de Dieu et pour me donner gratuitement accès à la grâce divine si je la saisis, accès au salut, accès à la vie éternelle. Le choix de croire que Jésus est le Seigneur de l'univers, mais aussi le choix qu'il soit alors le Seigneur de ma vie. Voilà une façon de résumer ce que nous professons sur la base de ce que nous dit Dieu dans la Bible. Et dans une compréhension binaire des choses, nous comprenons aussi que malheureusement, bien tristement, et le premier attristé, c'est Dieu, celles et ceux qui ne font pas ce choix de foi en Jésus-Christ ne bénéficient ni du pardon, ni du salut, et restent spirituellement et éternellement morts. Difficile et douloureux constat. Mais que se passe-t-il pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ? Que se passe-t-il pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de faire ce choix ? Ou pour celles et ceux qui n'ont pas eu la maturité pour le faire ? C'est là encore un questionnement assez vaste, et ce matin, je serai obligé de nous restreindre à un aspect particulier de ce questionnement, en considérant la question difficile peut-être du salut des enfants. Pas qu'on n'en ait jamais parlé, en tout cas moi pas. Et je propose de y réfléchir un peu ce matin. La suivante, Pedro. L'UNICEF estime que chaque année, plus de 6 millions d'enfants meurent dans le monde avant d'atteindre l'âge de 15 ans. L'estimation était de 6,3 millions en 2017. Dont 5,4 millions d'enfants décédés avant l'âge de 5 ans. Tristesse. Que deviennent ces enfants ? L'Institut national d'études démographiques dit aussi que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime à 56 millions le nombre d'avortements en 2014 dans le monde. L'avortement, ce droit, entre guillemets, plein de guillemets, que notre pays envisage d'inscrire dans la Constitution, ça passe d'ailleurs en débat au Sénat ce mercredi, c'est ce qui m'a poussé à aborder ce sujet ce matin. Comme diraient certains, on marche sur la tête. Et si vous allez directement sur le site de l'OMS, sur la base d'une étude faite entre 1990 et 2019, eux parlent en fait d'une moyenne de 73 millions d'avortements par an. Faut-il dire 73 millions d'individus ou individus en devenir dont la vie est prématurément arrêtée ? Terrible. Que deviennent ces embryons ou fœtus, bébés ? Et enfin, autre statistique, c'est un autre registre, mais une autre étude dit aussi qu'il y aurait 23 millions de fausses couches chaque année dans le monde. On arrive ici à un total de 100 millions. 100 millions par an. Un chiffre qui peut donner le vertige. Que deviennent tous ces bébés et ces enfants. Un sujet facile aujourd'hui. C'est certain pour les bébés, nés ou pas encore. C'est sûr aussi, je pense, pour les enfants de moins de 5 ans et peut-être aussi pour les enfants plus grands, même si ça se discute peut-être, pour les plus âgés. Ils n'ont pas pu faire le choix personnel de croire en Jésus-Christ. Ils n'ont pas pu faire le choix personnel de croire en Jésus-Christ. Que deviennent alors ces 100 millions d'individus ? Quelle éternité pour eux ? Quelle éternité pour eux ? Pour ce qui concerne le cas particulier des avortements, un grand nombre de nos contemporains balayera sans doute cette partie du problème en ne considérant pas que l'on parle là d'individus, si c'est fait avant ce que l'on appelle dans notre pays le délai légal. Le sujet est en soi complexe. Et sans entrer dans le détail, je me contenterai de dire que mon avis est que l'on devient ou que l'on advient à l'existence, à notre conception. Et dès qu'il y a quelque chose à avorter, il y a selon moi alors quelqu'un à avorter. Un corps étranger qui est un corps certes encore informe, mais je le crois une personne, et non pas juste une chose. Une personne à qui Dieu a déjà donné une identité spirituelle. C'est le propre de tout être humain, en tout cas, une identité différenciée de celle de la mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, je n'étais encore qu'une masse informe. Mais tes yeux, et on parle de Dieu ici, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Écrivait le psalmiste David sous l'inspiration du Saint-Esprit dans le fameux psaume 139. Et la question demeure, que deviennent-ils ? Quelle éternité pour eux ? On me le reproche des fois, mais je crois que c'est pour tout individu la seule question qui vaille vraiment. Cette question d'éternité, tout doit se mesurer à l'échelle de l'éternité, sinon c'est de l'éphémère. Toute existence doit se considérer dans son éternité. Sinon, on ne considère que la partie qui s'évapore, comme dirait l'apôtre Jacques. Qu'est-ce que votre vie terrestre ? Qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Mais la question n'est pas facile, car il nous faut reconnaître que la Bible ne mentionne pas vraiment ces cas de figure de façon explicite. Cependant, sur la base de ce que je connais de Dieu et de ce que je connais de la Bible, je crois néanmoins pouvoir dire, pour tous ces bébés et enfants dont la partie terrestre de la vie a été courte, voire excessivement courte, puisque énormément d'entre eux sont décédés avant même de voir le jour, je crois pouvoir dire qu'ils sont au paradis, qu'ils sont désormais vivants dans la présence parfaite de Dieu, pour une éternité de félicité et de bonheur avec lui. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi j'en arrive à cette conclusion, et même conviction. Tout d'abord, je balaye le faux argument selon lequel les bébés ou les enfants seraient innocents. Le constat biblique n'est pour le coup clairement pas celui-là. Il est de fait opposé à ce genre d'adage. David, là encore, a par exemple aussi écrit dans un autre psaume, et on peut le lire au psaume 51, verset 7, « Je suis né dans la faute, ma mère m'a conçu dans le péché. » Ce verset ne veut pas dire que David serait un enfant illégitime, que sa mère aurait conçu en dehors de son mariage avec Isaïe, son mari. Pas du tout. Une autre traduction le met certainement plus clairement. Depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Ce n'est pas juste parce que David noircit le tableau le concernant, parce qu'il s'humilie devant Dieu en écrivant ce psaume, après avoir effectivement reconnu avoir commis des choses aussi terribles qu'un adultère et un meurtre. Il avait certainement de bonnes raisons de se sentir un moins que rien alors. Mais ce verset est cependant, je crois, une réalité pour nous tous. Comme le dit encore une autre version dans la version Sommer, « Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis qu'en ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. » C'est le cas de nous tous, c'est le cas de tout être humain, de tout bébé à naître ou déjà né. Et le constat est dur. Le constat est dur et sans appel. En tout cas, je pense que le Dieu le dit ainsi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le constat, tout être humain a par essence hérité d'une nature pécheresse. Ça a été trop vite, Pedro. Remonte un peu. Tout être humain a par essence hérité d'une nature pécheresse. Ontologiquement, pour dire un mot savant, qui veut dire par essence, l'être humain, oui, est pécheur. Né pécheur, et les mêmes avant de naître. Pécheur par essence, et donc pas de considération d'âge là-dedans. On peut s'en plaindre, trouver cela injuste. En tout cas, c'est un fait. Par une seule faute, celle d'Adam, résumera l'apôtre Paul, la condamnation s'étend à tous les humains. Par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les humains. Dieu ne sauverait donc pas les enfants pour leur innocence. Non, pour cette raison-là, il ne le pourrait pas, puisque ce serait un mensonge selon le constat même de Dieu dans sa propre parole. Certains en déduisent que les enfants ne sont donc pas sauvés, parce qu'ils n'ont pas confessé Christ pour le pardon de leurs péchés. Moi, je me permets de poser la question de savoir si ça serait juste de la part de Dieu. Combien même ils sont effectivement pécheurs par nature. Dieu est toujours absolument juste. C'est une certitude absolue et tout doit donc se considérer sur cette base-là. Dieu est toujours juste. Alors serait-il juste de la part de Dieu de laisser condamner quelqu'un pour ne pas avoir saisi en Christ l'unique solution au problème du péché ? Alors qu'il n'était pas en âge de raison pour le faire. Il ou elle, un embryon, un fœtus, un bébé en bas âge, n'a pas encore pu choisir. Et en me posant cette question, en la posant au Seigneur, et même si je n'ai surtout pas la prétention de pouvoir dire à Dieu ce qui est effectivement juste ou ce qui ne l'est pas, ma justice humaine est bien limitée et n'est certainement pas la justice divine, je me dis quand même que ça ne serait pas juste. D'autres, c'est la théologie catholique, disent que le baptême des enfants les sauve. Mais je ne trouve pas trace dans la Bible du fait que le baptême serait efficace en soi. D'autres en déduisent alors que les enfants sont sauvés parce que Dieu est tellement amour que cet amour transcende tellement tout. Tout le monde est au final sauvé. Évidemment, c'est parce que Dieu est amour que quelqu'un peut être sauvé. On le sait, le sacrifice de Christ a été motivé par l'amour de Dieu. Il n'y a que relire Jean 3,16 pour s'en convaincre, si besoin est. Mais ce n'est pas la seule raison. Et ce n'est certainement pas une raison qui transcenderait à comprendre, comme voulant dire, qui serait au détriment ou en opposition à tout autre élément, ou en particulier, ça ne peut pas être au préjudice d'un quelconque autre aspect de la personne de Dieu. L'amour infini de Dieu ne peut pas être au préjudice d'un quelconque autre aspect de sa personne. L'amour de Dieu et la mise en œuvre par Dieu de son amour ne peut jamais être au détriment, ne fût-ce que minime, de ses autres attributs tels que sa sainteté, sa justice. Parce que Dieu ne peut ni se contredire ni être incohérent. Il peut tout faire, sauf ce qui est contraire à lui-même. En particulier, si Dieu demande justice par rapport au péché, et il l'a fait clairement, il l'a décidé ainsi, le salut ne peut pas être une simple tournée générale d'amour et de grâce. Car sinon, l'œuvre de salut de Dieu, le sacrifice de Christ, serait de facto inutile. À cause de sa justice et de sa sainteté, Dieu ne peut pas unilatéralement décréter le salut universel. Sa parole nous dit que ce n'est pas possible. Le célèbre « Nous irons tous au paradis » est un mensonge. Comme disent plusieurs versets, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Comment résoudre l'équation alors ? C'est peut-être une présomption de ma part, mais personnellement, je crois que ce sont des coupables graciés. Je crois que la justice de Dieu est satisfaite quand il fait ainsi grâce à celui qui, sans cette grâce, serait, entre guillemets, injustement condamné. Mais je le redis, pas injustement condamné parce qu'il serait innocent. Non, il est coupable. Nous l'avons souligné. Mais il ne peut pas répondre à l'exigence imposée par Dieu, à savoir saisir par la foi le salut en Christ. Il ne peut pas, parce qu'il n'en est pas encore capable. Il n'en a pas encore la capacité. Dieu peut-il exiger une exigence impossible ? Ne serait-il pas alors injuste ? Ah, désolé bébé, tu n'as pas satisfait l'exigence de la foi, mon fils Jésus. Y aurait-il ainsi chaque année 100 millions d'individus allant à la perdition de la... sans avoir réellement eu l'opportunité de salut ? Question difficile, hein ? J'avoue que j'ai peine à m'y résoudre. Et j'avoue que je ne peux pas me résoudre à ce que Dieu soit ainsi. Dieu serait injuste de ne pas les gracier. Quelqu'un qui n'est pas en âge de raison, oui, moi je pense que Dieu le gracie. Par contre, quelqu'un en âge de raison est bibliquement responsable de son rejet de la grâce. Et là, il serait injuste de le gracier. Il serait injuste de le gracier s'il ne veut pas. En tout cas, ma conclusion personnelle, sur la base de ce que je connais de Dieu et de la parole, mais bien sûr, j'accepte potentiellement de me tromper, hein. De toute façon, je sais que Dieu est juste et que Dieu sera juste. Et un jour, on saura pour sûr. En tout cas, ce n'est pas juste une porte ouverte à ce qu'on appelle l'universalisme ou une doctrine du salut qui permettrait plein d'exceptions à la règle. Non. Et bien sûr, chacun a le droit d'avoir son propre avis. Hein. Et puis j'aurai plaisir à en discuter avec vous. En y réfléchissant, peut-être aussi, mais là j'échafaude un peu, je pense tout haut, que l'Esprit de Dieu pourrait aussi très bien tout à fait parler, convaincre, y compris de péché, de justice, de jugement, pour reprendre les termes d'un verset bien connu, l'esprit d'un enfant, d'un nouveau-né, ou même d'un bébé encore à naître, juste avant qu'il ne quitte ce monde terrestre. Pour le coup, ce qui me concerne, c'est de l'ordre du possible pour Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu, en tout cas, n'a pas besoin de notre intelligence ou de notre rationalité ou de notre éveil spirituel au sens où nous l'entendons. Et ce ne serait en tout cas pas contradictoire, je pense, avec sa personne et ses attributs. Comme je le dis, voilà, j'échafaude. Vous pouvez me le reprocher si jamais. Ce qui est sûr, c'est que Jésus disait « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Il le disait certes à des adultes, pour leur faire comprendre des notions comme la confiance et la dépendance, à l'exemple des enfants vis-à-vis de leurs parents notamment, ce que Dieu attend de nous, adultes, par rapport à lui. Mais il le disait aussi, je pense, certainement pour souligner la considération spéciale qu'ont les enfants aux yeux de Dieu. Je crois que pour eux aussi, Jésus peut dire « Père, mon sang a coulé pour eux. » Oui, je crois que l'on peut dire que Christ est mort pour eux aussi, combien même ils ne peuvent pas consciemment encore se l'approprier. En tout cas, nous, en tant qu'observateurs extérieurs, nous ne le savons pas. À débattre. Le roi David disait aussi, suite au décès de son enfant en bas âge, enfant certes illégitime, qu'il avait eu suite à cette liaison avec Bathsheba, mais il a dit, « Lorsque l'enfant était encore vivant, je jeûnais et je pleurais, car je me disais, qui sait, peut-être l'Éternel me fera-t-il grâce et peut-être l'enfant restera-t-il en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner? Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai le retrouver. Mais lui ne reviendra pas vers moi. » On peut comprendre ces versets de façon très terre-à-terre, peut-être, comme voulant dire, « Il est mort, moi aussi, un jour, je vais mourir. » Ou comme le soulignent certains commentateurs, « Il est au paradis avec Dieu, et moi aussi, un jour, je le rejoindrai. » Évidemment, il ne s'agit pas de faire dire à la Bible ce qu'on aurait envie qu'elle nous dise. Mais il me semble, et pas qu'à moi, que David avait, assez étonnamment pour son époque, une compréhension plutôt juste déjà du pardon et du salut par la grâce de Dieu. Il avait aussi déjà une bonne conscience et compréhension de l'éternité qui en découlait. Et David sait en particulier, il s'est exprimé dans les psaumes à ce sujet, il sait qu'il louera Dieu éternellement. Il sait qu'il est conduit sur la voie de l'éternité, comme dit aussi le psaume 139. Florent Varac, vous connaissez peut-être ce pasteur, dans la série de podcasts intitulée « Un pasteur vous répond ». On a fait un sur le sujet du salut des enfants, et je vous recommande ces podcasts, sans être obligé d'être toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais il est intéressant car, en général, il aborde toujours tous les divers positionnements qui existent dans la palette des chrétiens. Et c'est intéressant de pouvoir mettre en les différentes façons de comprendre un passage ou un sujet. Et après, il exprime son point de vue à lui. Vous aurez la référence dans les notes de la prédication que j'envoie toujours avec le mail d'annonce chaque semaine. Alors, il y mentionne aussi d'autres points de vue, mais je note quand même qu'il a la même compréhension que moi sur ce sujet, sur la base de ce qu'on qualifierait de faisceau d'indices concordants, peut-être dans la Bible. Mais en tout cas, si le sujet vous intéresse, il y a aussi ce livre-là dans les bras de Dieu. Alors, il était à la bibliothèque, mais je ne sais pas s'il est encore par là, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Il va revenir. En tout cas, notre compréhension que je vous expose a, me semble-t-il, l'avantage de ne contredire ni la personne de Dieu, ni la notion de péché et de nature pécheresse de l'être humain, ni de salut par la foi et d'être conforme, autant que je puisse le comprendre, en tout cas, à la teneur de l'Évangile et de la grâce de Dieu. Et là où la mort semble avoir gagné, là où Satan semble l'avoir emporté, je crois que c'est en fait Dieu et la vie que Dieu donne, qui sont effectivement victorieux, même si c'est encore dans une dimension invisible à nos yeux, mais déjà bien visible, je l'espère, à notre foi. Mais discutons-en, pour grandir ensemble dans notre compréhension de Dieu et de son œuvre et de son plan. parce que ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent, mais ce n'est pas anodin. 100 millions d'individus par an. C'est comme bien de réfléchir un peu où ils sont, où ils vont. Alors la question que vous poserez peut-être, alors oui, mais c'est quoi l'âge de raison ? À quel moment bascule-t-on en devenant pleinement responsable de son choix ou de son non-choix ? Y a-t-il un instant couperé ? Question difficile aussi, et je ne sais pas pour sûr, on va dire. Je ne pense pas qu'il y ait un âge fatidique qui soit le même pour tous. Ça dépend certainement de la maturité des uns et des autres. Les Juifs ont une cérémonie de passage à l'âge de majorité religieuse, qu'ils appellent la bar mitzvah, vers les 13 ans environ. Dans le livre de l'Exode, on peut voir aussi que Dieu ne punit pas tous ceux qui ont moins de 20 ans. Ils pourront entrer dans le pays de Canaan, contrairement à leurs aînés qui mourront tous dans le désert. Nous, qui ne baptisons pas les bébés, à quel âge accepte-t-on qu'un ou qu'une jeune se fasse baptiser ? Nous avons eu ce privilège l'année dernière, avec plusieurs baptêmes. Réponse un peu floue, je pense, quand nous pensons qu'il ou elle a la maturité suffisante pour avoir effectivement discerné Christ, pour avoir effectivement compris les grandes lignes de l'Évangile. En tout cas, Dieu sera juste. Pour certaines personnes aussi, notamment, qui peuvent peut-être avoir un handicap mental, je pense que cet âge de raison, au sens humain du terme, n'arrivera peut-être jamais ici-bas. Dieu sera juste. Personnellement, je prendrais peut-être le problème d'une autre façon. Si quand on pose la question à quelqu'un de savoir qui est Jésus pour elle, pour lui, si une personne commence à se chercher des excuses ou des circonstances atténuantes pour expliquer pourquoi elle n'a pas encore décidé de recevoir Jésus dans son cœur, c'est à mon avis un signe qu'elle est en âge de raison et en âge de responsabilité. Mais Dieu sera juste. Dieu sera juste. Donc je ne réponds pas à cette question-là parce que je ne sais pas. Mais je souligne quand même, petite parenthèse, que c'est en tout cas un privilège pour les enfants et pour les jeunes d'entendre parler du Seigneur, de voir l'exemple de leurs parents, exemple exemplaire, on le sait bien, et de l'Église, dès leur plus jeune âge, pour les aider par la suite à faire le bon choix, pour les aider à faire le choix de donner leur vie à Christ, par la grâce de Dieu. Alors un énorme merci à celles et ceux qui s'investissent dans leur enseignement notamment, école du dimanche, groupe de jeunes, ou dans la prière aussi, en particulier pour les enfants. Beaucoup de ressources de notre Église sont investies dans ce travail, et je pense que c'est important et c'est essentiel en tout cas, merci. Fin de la parenthèse. Quelle conclusion tirer de toute cette réflexion ? J'en ai listé 3 points principaux, tout en reconnaissant que le sujet est difficile, complexe, délicat même. Mais premièrement, en lien avec la question de base, qu'est-ce que l'Évangile ? On peut certainement souligner à nouveau que l'Évangile est la preuve que Dieu est bon, mais aussi que sa grâce n'est pas une grâce à bon marché. Sa grâce n'est pas une grâce à bon marché, et cela exclut, je pense, de fait, l'universalisme du salut, qui serait contraire à la sainteté et à la justice de Dieu. Souvenons-nous toujours que notre salut a coûté à Dieu. Il a coûté très cher. Il est gratuit pour nous à la condition de reconnaître ce prix pour lui. Mais c'est aussi pour cela, je pense, que Dieu peut l'offrir sans compromission de son être même, sans se contredire, sans incohérence à celles et ceux, embryons, fœtus, bébés ou enfants, qui ne sont pas à même, à vue humaine en tout cas, de le saisir par choix et par foi personnelle. Dieu est ainsi pleinement juste. Le prix a été payé. Alors réjouissons-nous grandement, soyons reconnaissants et dans la louange de ces attributs parfaits et absolus que Dieu possède, amour, bonté, sainteté, justice et tant d'autres, et rendons gloire à Dieu pour qui il est. Deuxièmement, On dit souvent, peut-être pour se rassurer, que le meilleur est à venir. Mais ainsi l'exprimait l'apôtre Paul, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Demandons à Dieu de renforcer en nous cette conviction pour nous-mêmes, mais aussi pour les millions d'enfants concernés. Sans nier ou minimiser la douleur de la perte d'un enfant à naître, ou d'un enfant en bas âge. Et il ne s'agit assurément pas de trouver un palliatif chimérique à cette souffrance. Et plusieurs parmi nous, ou parmi nos connaissances, ont traversé ce genre d'épreuves. D'une fausse couche ou d'un enfant décédé. Pedro avait partagé dernièrement l'histoire de cette dame dont l'enfant est décédé juste quelques jours avant la naissance prévue. Continuons à entourer ces personnes, mais que cette conviction du salut de l'enfant puisse être aussi consolation pour les parents et les proches dans la paix du Seigneur. Et j'espère aussi une certaine joie de cette réalité éternelle de salut, du fait qu'ils sont avec Christ, et comme le disait Paul, c'est de beaucoup le meilleur pour eux. Et dans cette logique, même si c'est délicat et peut-être choquant de le dire, pardonnez mes mots sans doute maladroits, mais dans l'amour et la souveraineté de Dieu, leur décès prématuré leur a donné un accès plus rapide au ciel et leur a évité bien des douleurs ici-bas. Troisièmement, pour ce qui concerne les enfants morts du fait d'un avortement, là encore, que le fait de connaître leur destinée éternelle soit également un réconfort premier. Soyons consolés par l'accueil juste que Dieu fait aux dizaines de millions d'individus ainsi décédés, ou devrais-je dire ainsi tués, même si le mot est aussi choquant. Il ne s'agit pas de banaliser la chose ni de chercher d'excuses quant à la responsabilité culpabilité des personnes décidant d'un avortement. Le geste et les conséquences du geste ne sont pas anodins. Et chacun devra rendre compte devant Dieu. Mais je ne connais pas les situations individuelles. Et s'il n'y a pas, à mon avis, de circonstances atténuantes, moi je ne trouve pas approprié ce terme qu'on utilise souvent dans le langage juridique, il y a certainement des circonstances explicatives. Mais surtout, je ne suis pas leur juge. Je ne suis pas leur juge. Nous ne sommes pas leur juge. Tout péché entraîne condamnation, mais le juge, c'est le Seigneur, et lui seul. À notre niveau, nous sommes et devons être témoins de l'Évangile, témoins de la grâce de Dieu offerte. Et c'est déjà beaucoup pour nous. Et c'est ainsi que je note avant tout la bonne nouvelle de l'Évangile, que pour cela, comme pour tout autre péché, la grâce est possible. La grâce est possible. Et même la grâce est offerte. Oui, actuellement, Dieu offre sa grâce à tout coupable. Et ça, c'est magnifique, parce qu'en effet, Dieu ne propose pas, comme pourrait le faire le monde, l'atténuation, ou la négation, ou la dépénalisation, voire la légalisation d'une faute, ce qui, fondamentalement, n'apporte qu'un semblant de soulagement. Dieu propose de souligner la gravité du péché, mais à la clé, il veut donner son pardon et la rédemption qui s'ensuit. Et c'est ça, l'Évangile. Ce n'est pas juste un soulagement, c'est une vraie régénération. La grâce de Dieu n'est pas non plus une grâce à bon marché dans ce qu'elle apporte à ses bénéficiaires. La grâce de Dieu n'est pas non plus une grâce à bon marché pour ce qu'elle apporte à ses bénéficiaires. N'oublions pas cela dans nos combats, y compris peut-être dans notre interrogation contre certains dérapages de ce monde. vivons et partageons l'Évangile en esprit et en vérité. Et que le Seigneur nous vienne en aide, vienne en aide à nos contemporains par sa grâce en Jésus-Christ.